Bien, bonsoir à tous. Excusez ce léger retard qui m'est entièrement imputable. Gunther Theuner war pünktlich. C'est moi qui ne l'étais pas. C'est pour moi un grand honneur, en même temps qu'un plaisir personnel, d'accueillir le professeur Theuner au collège. Il avait déjà eu l'occasion de contribuer au colloque qui s'était tenu il y a 2 ans sur l'entreprise sans frontières. Il revient cette fois-ci invité par l'Assemblée des professeurs du Collège de France. Et je vais vous dire en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà son parcours, ce qu'il a été. Mais je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Le professeur Theuner est l'un des théoriciens du droit les plus connus dans le monde pour ses travaux qui transposent au domaine juridique les perspectives ouvertes en biologie par Francisco Varela et en sociologie par Niklas Luhmann. D'ailleurs, Gunther est autant sociologue que juriste. Et son analyse du droit comme système autopoétique et sa théorie autoréférentielle des institutions ont donné lieu à de nombreuses publications, dont plusieurs, je vais y revenir, ont été traduites en français. Gunther Theuner ne s'est jamais laissé enfermer dans le monde éthéré de la théorie du droit. Il a toujours, dans son œuvre, continué à faire ce que nous appelons du droit positif, et notamment dans le domaine du droit des sociétés commerciales et plus largement du droit économique. Après avoir étudié le droit donc, et la sociologie à Göttingen, Tübingen et à Berkeley, il a été d'abord professeur à Brême, puis il a été l'une des figures les plus marquantes du département de droit de l'Institut universitaire européen de Florence, où il a enseigné de 1981 à 1993. Et c'est là que j'ai eu la chance de le connaître en 1984, puisqu'il avait eu la très bonne idée d'inviter le jeune professeur totalement inconnu que j'étais à venir parler dans son séminaire. Je crois me souvenir qu'il s'agissait d'un séminaire consacré au thème émergent alors de la délégalisation. On ne disait pas encore déréglementation. C'est un des traits marquants, en effet, du travail et de la pensée de Gunther Theuner d'avoir toujours été situé sur les fronts les plus avancés de la recherche. Après Florence, il enseigna une dizaine d'années à la London School of Economics sur la chaire Otto Kahn-Freund. C'est un nom révéré, s'il en est, dans le monde des justes laboristes, bien que ce ne soit pas le droit du travail que tu aies enseigné à Londres. En 1998, il reprit le chemin de l'Allemagne pour occuper une chaire de droit privé et de sociologie du droit à l'université Goethe de Francfort, dont il est toujours professeur émérite. Et sa carrière a été marquée par de très nombreuses invitations à enseigner à peu près partout dans le monde et par de nombreuses distinctions. Je ne vais pas, par égard à sa modestie, vous infliger la liste de ces distinctions. Je citerai seulement le prix Gay-Lussac-Humboldt qui lui a été attribué en France. De fait, plusieurs de ses livres ont été traduits en français. Je crois que le premier, ça a été en 1993, aux Presses universitaires de France, dans la collection « Critique du droit » dirigée par Mireille Delmas-Marty, le livre « Le droit, un système autopoétique », puis l'année suivante, aux éditions LGDLJ, l'ouvrage intitulé « Droit et réflexivité, l'autoréférence en droit et dans l'organisation ». Et enfin, en 2016, vient de paraître chez Hachette Garnier, dans la collection dirigée par Olivier Beau et Jean-François Kervégan, le livre dont il va nous parler ce soir, qui s'intitule « Fragments constitutionnels, le constitutionnalisme sociétal à l'ère de la globalisation ». Ce livre, initialement paru en 2012, en Allemagne, et donc aujourd'hui traduit. Alors, traduit de l'allemand ou de l'anglais ? Traduit de l'allemand, oui. D'ailleurs, remarquablement traduit par Isabelle Aubert, qui est peut-être dans cette salle. Non, elle n'est pas là. et dont il faut saluer la qualité du travail. Alors, fort de sa double compétence de théorie du droit et de droit économique, Günther Teubner avance dans ce livre la thèse selon laquelle la globalisation conduirait à un déplacement des sources constitutionnelles des États vers d'autres entités, dont les entreprises multinationales, mais pas seulement les entreprises multinationales. Cette thèse est très débattue en Allemagne et dans le monde anglo-américain, où elle a soulevé de nombreuses objections dans les rangs des gardiens du constitutionnalisme, et notamment des objections de la part du professeur Dieter Grimm, que nous avons eu le privilège d'entendre récemment sur un autre sujet à propos de son livre sur l'Europe. Alors, sans entrer maintenant dans ce débat, la seule chose que je tiens à dire ici est que ce livre est un livre extrêmement important, qu'il faut lire, qui donne à penser le nouvel ordre, ça c'est pour les optimistes, le nouveau désordre, c'est plutôt la façon dont je suis malheureusement enclin à voir les choses, juridique mondial. Le propre de l'université est de pouvoir confronter sa pensée à des pensées différentes, autrement ce serait un monde vraiment très ennuyeux, dans un commun effort pour comprendre le monde. Et les occasions de le faire deviennent malheureusement trop rares, avec la marée noire de publications charriant tous les poncifs du mainstream. Lire Günther Teubner est toujours en revanche un exercice roboratif, car il ne publie pas pour améliorer des sources, des scores bibliométriques, mais parce qu'il a des choses importantes à nous dire et à nous faire comprendre. Je le remercie donc d'avoir bien voulu faire cette présentation en langue française, et en guise de reconnaissance, je lui remets, avant de lui passer la parole, la médaille du Collège de France, où il trouvera gravé la figure d'une autre intellectuelle peu conventionnelle qui était Guillaume Budé, j'espère. Oui, il est bien. Guillaume Budé figure bien sur la médaille. Günther.
Très gentil. Merci.
Sie haben das Wort.
Merci beaucoup. Monsieur, dame. Micro fonctionne? Monsieur, dames, merci pour l'invitation et merci pour cette introduction gentille et merci pour ce médaille. Pour moi, je suis très, très, très honoré de pouvoir faire ici une conférence, ici, au Collège de France, cette institution intellectuelle éminente de Paris, de la France et de toute Europe. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un argument que pour résoudre les problèmes de la société globalisée, il ne faut pas seulement activer les énergies sociales de la politique institutionnalisée ou de l'État de providence ou de l'État interventionniste. Plutôt, il faut activer les énergies politiques dans tous les domaines de la société entière. C'est la raison pourquoi je fais un plaidoyer pour un constitutionnalisme sociétal qui se distingue nettement du constitutionnalisme traditionnel, constitutionnalisme étatique. Alors, mon approche est un pluralisme constitutionnel. Alors, une pluralité des constitutions, pas seulement des États, mais la constitutionnalisation aussi de l'économie, de la science, de la technologie, de la médecine, etc., etc. Alors, moi, je parle sur la question constitutionnelle au-delà de l'État-nation pour une approche sociologique du phénomène constitutionnel. Pourquoi la nouvelle question constitutionnelle ? Google, cette machine à l'Internet, Google fait à nouveau parler de lui dans le domaine politico-juridique, sa domination sur 90% du marché des moteurs de recherche de l'Internet mondial, son utilisation problématique des données privées des usagers et de ses tendances expansionnistes massive en direction d'autres secteurs pose des questions d'ordre constitutionnel au sens strict. Il n'est toutefois pas aisé de déterminer quelle constitution est concernée par le pouvoir de marché de Google. Il est certain que les constitutions politiques des États-nations sont ici insuffisantes. Mais le pouvoir de marché de Google ne représente pas seulement un problème de constitution économique transnationale. Le monopole de l'information relève de la constitution médiatique et les attentes aux droits fondamentaux, à la sphère privée, à l'autodétermination informationnelle et la liberté de communication, attentes liées à la mise en réseau digital à l'échelle mondiale, sont des problèmes qui relèvent typiquement de la constitution de l'Internet. Il ne s'agit pas seulement de régulation, mais de constitution. En effet, si la régulation politico-juridique cherche à influencer de l'extérieur le comportement des acteurs, l'enjeu consiste ici à modifier la structure interne de l'Internet et de ses acteurs collectifs, qui s'étend jusqu'aux ramifications les plus fines du processus digital. Par ailleurs, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la juridisation d'un espace situé jusqu'à présent en dehors des droits, mais bien également la constitutionnalisation de cet espace. Et cela signifie une intrication complexe des processus sociaux et juridiques au méta-niveau de l'Internet. Ce ne sont pas les processus d'information eux-mêmes, mais l'architecture de leur guidage, le fameux code digital, Lawrence Lessig, qui élabore la constitution de l'Internet. Elle n'y parvient toutefois pas toute seule, mais uniquement à condition de s'articuler à des normes juridiques qui ne sont pas, quant à elles, des normes primaires orientant les comportements, mais des normes secondaires, de plus haut rang. Google est un exemple paradigmatique de la nouvelle question constitutionnelle que soulèvent les tendances à la globalisation, à la privatisation et à la digitalisation du monde. Au regard des vieilles questions constitutionnelles des 18e et 19e siècles, les problèmes qui se posent aujourd'hui sont certes d'un autre ordre, mais n'en sont pas moins graves pour autant. S'il s'agissait autrefois de libérer les énergies politiques de l'État-nation et dans le même temps de les limiter efficacement sur un plan juridico-politique, les processus de constitutionnalisation actuels visent à restreindre les effets destructeurs d'un déchaînement d'énergie sociétale tout autre. On l'observe tout particulièrement dans le domaine économique, mais également dans les domaines des sciences et de la technologie, de la médecine et des nouveaux médias. Une constitutionnalisation qui opère au-delà du cadre de l'État-nation produit en tant qu'événement évolutif des effets dans deux directions. Des constitutions se forment hors des frontières de l'État-nation, au sein des processus politiques transnationaux et simultanément en dehors de la politique internationale dans les secteurs privés, à la société mondiale. En se confrontant à ces problèmes, la sociologie du droit se trouve d'une certaine manière reconduite au début de la sociologie. Celle-ci s'était d'emblée distinguée de la perspective étroite du droit constitutionnel et de la doctrine de l'État, qui limitait les phénomènes constitutionnels au domaine de l'État, et elle avait envisagé la constitution de la société moderne dans son ensemble et selon ses constitutions sectorielles. Aujourd'hui, la transnationalisation assigne trois tâches à la sociologie constitutionnelle. Première tâche, l'examen empirique des processus réels de constitutionnalisation en cours en dehors des États-nations. nation. Deuxième tâche, l'esquisse d'une théorie du constitutionnalisme sociétal transnational. Troisième tâche, l'élaboration des conditions sociologiques préalables à l'établissement des perspectives normatives dans les domaines politiques et juridiques. La question reste ouverte de savoir si et comment la dogmatique du droit constitutionnel réagira aux irritations provenant de la sociologie constitutionnelle. Les résistances sont en tout cas considérables. Que des configurations transnationales puissent, d'une manière générale, être des sujets constitutionnels appropriés, donc des ordres sociaux capables de réaliser des constitutions, c'est là une question que les constitutionnalistes attachés au cadre de l'État-nation ont expressément rejetée et même vigoureusement niée. Alors, les objections que tu as mentionnées. D'après eux, seules les structures politiques organisées en État-nation pourraient être constitutionnalisées, mais ni les organisations internationales, ni les régimes transnationaux, et encore moins les régimes transnationaux privés. Il manquerait à ces processus de constitutionnalisation hors État le substrat social pouvant former l'objet adéquat d'une constitution. Alors, les objections se contenuent. Les normes des régimes transnationaux exerceraient uniquement des fonctions régulatrices, mais pas à proprement parler des fonctions constitutionnelles. Elles ne seraient pas en mesure de réaliser l'interaction qu'on observe en politique entre les arènes de la formation de l'opinion publique et des processus décisionnels contraignants. L'idée de constitution transnationale se réduirait alors à des simples hiérarchies des normes juridiques sans trouver à s'ancrer dans des procès politiques démocratiques organisés. Alors, ce sont des objections. Ce ne sont pas là des objections de dogmatique juridique au sens strict, mais plutôt des constatations sociologiques dans le cadre d'un argumentaire de droit constitutionnel. Alors, qu'est-ce que la sociologie de droit a donc à dire à ce sujet? Première tâche, l'examen empirique des processus réels de constitutionnalisation en dehors des États-nations. La recherche sociale empirique s'est tout d'abord demandé à quel endroit, dans quel conflit, et avec quelles conséquences institutionnelles les processus réels de constitutionnalisation ont-ils lieu au sein de l'espace transnational? L'examen de ces questions n'est pas seulement une musique de l'avenir. Bien au contraire, les recherches menées jusqu'ici ont déjà montré que dans différents contextes transnationaux s'élaboraient des normes constitutionnelles auxquelles des futures études empiriques pourront venir s'arrimer. Alors, droits humains transnationaux. Leur effet horizontal sur les acteurs collectifs non étatiques. Alors, pas l'effet vertical entre l'État et les individus, mais horizontal entre les forces de la société. Leurs effets sont horizontaux et devenus particulièrement visibles dans les scandales environnementaux au Nigeria, dans les drames du sida en Afrique du Sud, le travail des enfants dans les pays en voie de développement, la saisie illégale des terres ou la biopiraterie, on trouve à chaque fois des entreprises transnationales impliquées dans les atteintes aux droits humains. Ce n'est pas toujours l'État, mais ce sont des entreprises privées qui sont des perpetrators. Par-delà la formulation positive des droits humains sur un plan interétatique, il est apparu que la société civile constituait l'élément moteur. En effet, lorsque des accords interétatiques garantissent la protection des droits fondamentaux, l'impact de ces droits fondamentaux transnationaux se limite aux États. Les droits humains ont la validité seulement de l'individu contre l'État, mais pas contre les acteurs collectifs privés. ils ne sont pas automatiquement valables pour les organismes ou les régimes internationaux. C'est seulement lorsqu'on instaure un processus d'autonomisation judiciaire sur la base d'une convention de droit international et que des droits fondamentaux s'y trouvent reconnus que ces instances de résolution de conflits formulent elles-mêmes positivement un processus assimilable à un common law process, une décision après l'autre créer le nouveau droit. Les standards des droits fondamentaux qui doivent être appliqués à l'intérieur du régime transnational. La véritable décision d'application revient aussi aux tribunaux arbitraux, eux-mêmes lorsqu'ils sont à choisir dans chaque sentence d'arbitrage entre différents standards de droits fondamentaux et lorsqu'on a établi quels droits fondamentaux seront appliqués de façon juridiquement contraignante à l'intérieur de chaque régime. Le fait que les mouvements de protestation, les organisations non gouvernementales et les médias révèlent des scandales contribue à ces processus de formation du droit dans le cadre des droits fondamentaux à chaque fois que les normes ou non, que les normes au nom desquelles on se scandalise sont intégrées à des réglementations secondaires au sein du système du droit mondial qui va bien au-delà du droit étatique et comprend également le droit sociétal. Deuxième champ. Constitution économique mondialisée. Les analyses des sciences sociales à propos d'un nouveau constitutionnalisme, de même que les recherches engagées par les économistes et les juristes d'affaires à propos des institutions émergentes d'une constitution économique mondiale, mais aussi les études dans le domaine du droit international portant sur l'importance croissante des normes du droit constitutionnel, ont toutes identifiés au sein de l'espace transnational des institutions constitutionnelles d'une étonnante densité. Peu de gens pourront contester aujourd'hui que l'Union européenne dispose, malgré l'échec de ses référendums constitutionnels, vous vous rappelez, d'une constitution autonome. Au cours des 30 dernières années, le consensus de Washington a donné à l'intérieur de l'espace transnational un coup d'accélérateur politique à une constitutionnalisation favorisant l'autonomie du marché mondial. Il n'a pas seulement suscité des régulations politiques isolées, mais aussi la normalisation des principes constitutionnels. Ceci visait à fournir aux entreprises actives à l'échelle mondiale des marges de manœuvre commerciales illimitées, à supprimer les participations des pouvoirs publics dans les entreprises, à combattre le protectionnisme et à libérer les entreprises économiques des régulations politiques. Toutefois, le développement des règles limitatives, qui devaient en même temps suppléer aux régulations nationales, ne figurait pas à l'agenda politique. Sans quoi il aurait donné lieu à des années de batailles contre-productives. C'est seulement aujourd'hui, parce que nous avons frôlé le catastrophe avec la dernière crise financière et économique, que des processus d'apprentissage collectif semblent se mettre en route afin de trouver à l'avenir des garde-fous relevant de la constitution économique et ce, à l'échelle mondiale. Troisième champ, constitution des régimes transnationaux. En dehors de l'économie mondialisée, il existe de nombreuses organisations internationales, des régimes transnationaux et réseaux mondialisés qui se sont entre-temps non seulement fortement juridifiés, mais sont également entrés dans son processus de constitutionnalisation et ont commencé ainsi à développer des constitutions propres. L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, the government of the Internet, organe de la gouvernance de l'Internet, les régimes transnationaux hybrides, comme la Lex Sportiva, mais aussi la régulation mondiale du domaine culturel, du secteur de la santé et de la protection de l'environnement sont des exemples marquants de la constitutionnalisation d'institutions transnationales. Ils sont devenus les éléments d'un ordre constitutionnel mondial, certes complètement fragmenté et dont il faut d'emblée reconnaître qu'il n'a pas l'épaisseur des constitutions nationales. Les récents débats publics à propos du constitutionnalisme démocratique parlent le langage des secteurs constitutionnels mondialisés réellement existants en plein bouleversant. Notre champ, l'ex mercatoria, ce droit auto-institué de l'économie mondialisée a formulé positivement au-dessus de ces normes juridiques contractuelles une couche de normes constitutionnelles. Il existe dans les institutions d'arbitrage une hiérarchie des normes au sommet de laquelle on trouve, sous le titre de ordre public d'arbitrage international, des normes constitutionnelles, des principes, des procédures et des standards des droits fondamentaux. Les analyses détaillées des décisions des tribunaux arbitraux permettent d'identifier un foisonnement de ces normes constitutionnelles auto-instituées de l'arbitrage international. Les tribunaux arbitraux privés formulent en droit positif la propriété, la liberté contractuelle et les droits humains comme les composants d'une transnational public policy. Corporate social responsibility, un autre champ. Nous avons un expert ici, M. Jean-Philippe Robet, l'expert français pour la constitutionnalisation des entreprises. Sous ce nom s'est récemment développé un domaine de constitutionnalisation transnationale particulièrement dynamique. Lors d'une première vague de constitutionnalisation néolibérale, les constitutions d'entreprise entendent fournir aux entreprises une grande autonomie. Les principes de la corporate governance des entreprises multinationales consistaient à obtenir un haut degré d'autonomie, à orienter les normes juridico-sociales en faveur des marchés de capitaux et à créer de la valeur actionnariale, the famous shareholder value. Toutefois, à la suite des nombreux scandales impliquant des entreprises au cours de ces dernières années, ce qu'on appelle les Corporate Codes of Conduct accompagne désormais la nouvelle vague, la deuxième vague de constitutionnalisation en restreignant normativement les activités des entreprises au nom de leurs responsabilités publiques. Ils cherchent au moyen des règlements privés, private ordering, c'est un paradoxe, hein, au moyen des règlements privés, private ordering, et des recommandations, des conduites appuyées sur le droit international, à briser le primat de leur valeur actionnariale et à mettre en place des standards, des responsabilités publiques dans les domaines du travail, de la qualité des produits, de l'environnement et des droits humains. Hein. Ce paradoxe, les régulations privées, elles réalisent les valeurs du bien commun. Global Administrative Law. Il s'agit là du dernier candidat en date à une constitutionnalisation des domaines sectoriels de la société mondiale. On compte plus de 2000 instances de régulation mondiale sous la forme d'organisations internationales ou intergouvernementales. À la différence du droit organisationnel interne de l'Organisation des Nations Unies et du droit international en général, dont l'effectivité se limite au domaine de la politique institutionnelle, les normes de ce droit administratif règlent immédiatement les domaines sectoriels mondiaux qu'elles concernent. Le caractère sociétal de la Global Administrative Law est manifeste en ceci que la régulation des espaces sociaux transnationaux opère toujours davantage à l'aide des formes de règlement privé qui ne se laissent pas saisir à partir des catégories du droit administratif, public ou public transnational. Les compétences en matière de régulation se transfèrent verticalement des États aux régimes internationaux et horizontalement des États aux acteurs non publics, entreprises transnationales et composantes de la société civile. Les normes constitutionnelles qui apparaissent ici sont notamment la garantie de procédures régulières, due process in English, et de la réglementation, les règles de notice and comment, l'obligation de consulter les experts, le principe de la proportionnalité et le respect des droits fondamentaux. Dernier champ, constitutionnalisation du droit international. Ce phénomène largement commenté joue également un rôle dans la constitutionnalisation des domaines sectoriels internationaux. On distingue ici au premier plan trois complexes normatifs, le jus cogens, vous dites jus cogens, hein, cogens, dans votre prononciation du latin, le jus cogens, le norm erga omnes et les droits fondamentaux, qui présentent effectivement des propriétés constitutionnelles. En tant qu'expression de valeurs universelles, ces complexes normatifs se passent du consensus des États et étendent leur caractère contraignant également aux États non consentants. Ça, c'est très étrange. Hein. Un régime contractuel a des effets pour les parties qui ne donnent pas leur consensus. Ces véritables normes constitutionnelles émergent du processus de transformation du droit international où l'on passe d'un ordre reposant simplement sur des accords, sur les contrats entre des États souverains, à un ordre juridique autonome qui établit lui-même les propres fondements dans l'ordre public transnational au moyen de normes constitutionnelles. Seule cette constitutionnalisation autorise le droit international à faire ce qui, pour un ordre reposant simplement sur des accords internationaux, sans le contrepoids d'un ordre juridique global, demeure impensable. Impensable. Ériger des normes qui soient contraignantes même contre la volonté expresse des parties contractantes, des normes qui ne tirent donc pas leur légitimité d'accord interétatique, mais de l'orientation de l'ordre juridique en direction du bien commun. Dans chacun de ces domaines, les analystes de sociologie du droit sont confrontés à la tâche d'identifier les caractères spécifiques de la constitutionnalisation qu'ils opèrent à l'échelle mondiale. La première question qui se pose est celle de savoir quels sont les équivalents transnationaux des sujets constituants de l'État national? Alors l'État, oui, mais qui est autre? Quels sont les nouveaux sujets constituants à l'heure de la mondialisation? Le système politique international lui-même, les systèmes fonctionnels mondiaux, alors l'économie, la science, les organisations internationales, les régimes transnationaux, les réseaux mondiaux, des assemblages, configurations ou ensembles nouveaux. La réponse dépend de la capacité de ces institutions non étatiques, à supporter des analogies solides avec le pouvoir constituant, l'autoconstitution d'un collectif, le processus décisionnel démocratique et la dimension organisationnelle d'une constitution politique au sens étroit du terme. Une analogie avec le constitutionnalisme étatique traditionnel étendu dans ces nouveaux domaines. Quels sont les acteurs collectifs étatiques ou sociétaux et quels sont les rapports de force qui accélèrent la constitutionnalisation des configurations transnationales? C'est là une question qui se trouve au centre de la recherche en sociologie du droit et tout particulièrement depuis la crise financière. La question se pose notamment de savoir quel rôle joue la communauté internationale, ce sont des États, la communauté internationale dans la constitutionnalisation des institutions internationales. Alors, cette communauté internationale des États-nations a-t-elle la fonction d'un constituant pour d'autres secteurs de la société mondiale, un privilège de l'État et de constitutionnaliser le reste de la société, ou est-elle une observatrice qui prend part au processus autonome de constitutionnalisation sociétaux, coordonne-t-elle des logiques systémiques divergentes comme un coordinateur, ou est-elle l'atelier de réparation de la différenciation fonctionnelle? La communauté internationale a peut-être moins de poids que les forces sociales externes, c'est-à-dire le contre-pouvoir de la société civile. Issu de contextes autres que la politique et le droit international, ça veut dire les médias, les discussions publiques, les manifestations spontanées, les intellectuels, alors nous ici, le mouvement des protestations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les professionnels et leurs organisations, et qui exercent une pression massive sur la constitutionnalisation interne des régimes transnationaux. La contribution spécifique de la sociologie du droit au débat sur les constitutions devrait consister à identifier les institutions constituantes au sens propre, qui caractérisent les différents régimes sociétaux par opposition aux institutions politiques constitutionnelles traditionnelles. Si les droits fondamentaux transnationaux sont respécifiés dans la pratique en différents domaines sociétaux, cela ne signifie pas simplement de les adapter aux spécificités du droit privé, des droits fondamentaux originairement destinés aux États, ainsi que la science juridique contenue à prétendre. C'est le débat traditionnel au droit privé. Les droits fondamentaux peuvent-ils être appliqués au champ privé de la société? On dit toujours, pas vraiment, seulement indirectement. Il faut les adapter aux exigences de la logique interne du droit privé. Parce que c'est très étroit. Une démarche qui suit simplement la doctrine juridique et ne concrétise que l'ordre des valeurs objectifs de la Constitution à partir du système des normes du droit privé passe à côté de la spécificité des différents contextes sociaux auxquels le droit privé prête ses normes générales. Il faut détourner les droits fondamentaux de leur orientation contre l'État et les réorienter contre les menaces spécifiques provoquées par les dynamiques sociales. Et ces menaces spécifiques sont diverses quand elles viennent de l'économie ou bien de la technologie ou bien de la médecine. Moi, je suis un type mélancolique, mais les docteurs me disent, alors, vous avez une dépression, vous devez prendre Prozac. Alors, c'est la médicalisation de la société, et moi, j'ai des droits humains contre les docteurs. C'est vrai ou non? Alors, c'était la première tâche. Maintenant, la deuxième tâche, l'esquisse d'une théorie du constitutionnalisme sociétal transnational. Le premier, un débat interdisciplinaire. Les constitutions sont trop importantes pour qu'on les abandonne aux constitutionnalistes. On a vu se développer à l'intérieur des disciplines très diverses, des traditions théoriques qui critiquent la limitation du phénomène constitutionnel à l'espace de l'État-nation et qui ont soulevé la question constitutionnelle dans différents secteurs de la société. L'historien Reinhard Koselleck, très fameux, a violemment critiqué le fait que la théorie et le droit constitutionnel concentrent aujourd'hui encore leur attention sur les seules constitutions étatiques. Même pour l'époque de l'État-nation, on devrait, selon lui, reconnaître la réalité historique suivante. Il existe non seulement une constitution étatique, mais également une constitution sociale bien plus vaste qui soumet les institutions économiques, sociales et culturelles à des exigences constitutionnelles. Kozelek pointe en même temps très exactement la nouvelle problématique du constitutionnalisme transnational. D'après lui, le fait que le concept traditionnel de constitution soit centré sur l'État rend impossible de thématiser les phénomènes post-étatiques et à certains égards trans-étatiques de notre époque. Dans le domaine de la sociologie, les classiques déjà ne s'étaient pas contentés de poser la question constitutionnelle au seul niveau de l'État, mais l'avaient envisagé pour tous les acteurs sociaux. On peut citer l'exemple d'Émile Durkheim, qui a établi un lien direct entre les structures sociales fondamentales, alors l'opposition entre société segmentaire et société connaissant la division du travail, et les normes sociales constitutionnelles, la distinction entre principes de solidarité mécanique et organique. Dans le champ de la société et des organisations, c'est la théorie du private government, Selznick par exemple, qui a fourni les travaux pionniers en identifiant les entreprises économiques et les autres organisations privées avec des associations politiques et en analysant en conséquence le transfert de principes politiques vers des organismes privés. Au sein d'organisations économiques prétendant avoir pour unique objectif l'efficience économique, on peut découvrir des processus de pouvoir proprement politiques et partant établir des analogies avec les grands systèmes politiques. D'une manière analogue à la constitution du pouvoir politico-étatique, les « private governments » produisent leur légitimité à travers une structuration explicitement politique de leurs règles organisationnelles et ils assurent les espaces de liberté de leurs membres grâce à des équivalents des droits fondamentaux. Le fait que l'exigence de constitutionnalisation se soit étendue à l'ensemble des processus économiques et du même coup à d'autres processus sociaux a depuis longtemps été très largement thématisé par les théories portant sur la constitution économique et sociale. Économique et sociale. Dans le cadre de l'État-providence. Le point de départ de cette théorie était l'idée politique de la constitution travail. Sinzheimer, un bon ami de M. Suppiot, c'est-à-dire l'idée d'un ordre qui assigne les travailleurs appartenant à des domaines déterminés par la loi ou par une convention à co-exercer le droit de disposition relevant autrefois de seul employeur, Sinzheimer. Cette idée fut pour la suite généralisée. La constitution politique est comprise au sens d'une constitution sociétale compréhensive. Avec cette conséquence que le législateur, ici le seul légitime, doit étendre la co-gestion démocratique et la garantie des droits fondamentaux à toutes les organisations importantes dans la société. Un tel programme postule que tous les sous-systèmes sociaux possèdent des constitutions sur le modèle de la démocratie politique. À l'arrière-plan sociothéorique, se trouvent les concepts de transformation sociale tels que les a développés Polanyi et qui partent du constat d'une économisation irréversible de la société tout en identifiant des contre-dynamiques sociales qui reconstituent un filet de sécurité d'institutions spécifiques. Un filet de sécurité d'institutions un Schutzmantel der Institutionen en Allemagne contre une économisation totale de la société. La sociologie constitutionnaliste contemporaine souligne notamment le rôle dominant du constitutionnalisme transnational dans lequel les acteurs collectifs privés jouent un rôle prépondérant. Les théories de la constitution économique ont gagné en profondeur de champ grâce à une controverse exemplaire en Allemagne à laquelle sont associés les noms de Joachim Mestmecker et Rudolf Witthölter. Dans la théorie ordo-libérale, connue par Foucault dans ses conférences ici, dans les théories ordo-libérales, Mestmecker, la propriété, le contrat, la concurrence et les institutions monétaires forment une constitution économique autonome qui n'épuise pas les normes du droit constitutionnel politique, mais qui est issue de l'interaction entre autorégulation économique, le savoir des sciences économiques et les normes politico-juridiques. Les institutions relevant d'une constitution économique ne tirent pas leur légitimité des décisions politiques du législateur, mais en premier lieu du fait que le commerce économique établit ses propres lois. Ça, c'est ordolibéralisme. En contraste, la théorie politique du droit de Witthölter table sur un droit constitutionnel conflictuel limité tout d'abord à l'économie, puis étendu à l'ensemble des domaines sociaux sectoriels, avec pour but d'institutionnaliser le politique au sein de la société en tant que société. C'est une politisation totale de la société. Ce politique ne s'établit pas seulement en faisant la somme démocratique des citoyens, mais il organise l'institutionnalisation des processus, des décisions, des communications et des formations. Les théories du néocorporatisme, ou corporatisme démocratique, c'est un contraste avec corporatisme féodal et corporatisme fasciste, alors il faut voir les différences et pas identifier ces corporatismes. Alors, les théories du néocorporatisme qui analysent un grand nombre de constitutions sociétales sectorielles s'avèrent particulièrement influentes en pratique comme en théorie. Les théories politico-économiques des Varieties of Capitalism ont fait ressortir très clairement les propriétés des régimes néocorporatistes. La conception théorique de ce type de constitution sociétale, où des intérêts organisés exercent des fonctions quasi publiques, a connu un écho important dans les années 70. Avant de perdre du terrain devant la vague montante de libéralisation des années 80. C'est seulement après la grande crise financière qu'on lui a prêté à nouveau une plus grande attention. Et pour finir, signalons la théorie sophistiquée du constitutionnalisme sociétal du David Schulley, un Italo-Américain, en prenant pour point de par le dilemme de la rationalisation de la modernité, Max Weber, Schulley pose la question de l'existence de forces opposées à la dérive massive vers un autoritarisme grandissant. Cette analyse de Max Weber de la modernité, un autoritarisme grandissant. D'après lui, la seule dynamique sociale qui a su par le passé contrer de manière efficace cette dérive et qui peut encore lui offrir une résistance à l'avenir est à chercher dans les institutions relevant d'un societal constitutionalism. L'élément décisif serait l'institutionnalisation sociale des collegial formations. Collegial formations, formation collégiale, qu'on pourrait reconnaître dans des formes spécifiques d'organisation professionnelle et dans d'autres institutions délibératives génératrices des normes. Nous ici, par exemple. Alors, parlons sur le concept de constitution transnationale. Appréhender ces échevaux des théories et les transformer pour les ajuster à un paysage transnational nouveau, tel est le défi auquel la sociologie constitutionnelle se trouve confrontée aujourd'hui. Il s'agit en premier lieu de développer un concept de constitution adéquat à la situation transnationale. Jusqu'à quel point faut-il généraliser les principes des constitutions étatiques pour éviter les embûches du nationalisme méthodologique? Et comment doit-on les respécifier sur un plan mondial en fonction des particularités d'une institution sociale? La méthode sociologique qui procède à une pareille généralisation et respécification devra se laisser guider par la question suivante. Est-il possible d'identifier dans les domaines sectoriels transnationaux un équivalent des constitutions nationales correspondant à leurs fonctions, à leur arène, à leur processus et à leur structure? Fonction, arène, processus et structure. Pour être reconnues comme normes constitutionnelles, les normes d'un régime transnational doivent passer quatre tests de qualité. Quatre tests de qualité suivants. Test numéro 1. Fonction constitutionnelle. Les régimes transnationaux établissent-ils de façon analogue aux constitutions nationales des normes dont les fonctions sont plus que simplement régulatrices ou destinées à résoudre les conflits, c'est-à-dire des fonctions constitutionnelles au sens strict? Ici, ce sont les fonctions constitutives et limitatives de la Constitution qui sont mises au premier plan. Les constitutions sociétales sectorielles remplissent une fonction constitutive lorsqu'elles formalisent l'autonomie des médias de communication qui leur sont à chaque fois propres et que le font à l'échelle mondiale. À l'aide des normes constitutives, chaque constitution sectorielle réglemente l'abstraction d'un médium communicationnel homogène, au pouvoir, l'argent, droit, savoir, qui représente une construction sociale autonome au sein d'un système fonctionnel constitué au niveau mondial. À cette fin, elles établissent des règles organisationnelles, des procédures, des compétences et des droits subjectifs. Elles codifient la séparation entre les sphères sociales et elles soutiennent ainsi la différenciation fonctionnelle de la société. C'est la fonction constitutive des constitutions. Les constitutions sectorielles remplissent aujourd'hui une fonction limitative, particulièrement importante lorsqu'elles développent des autolimitations constitutionnelles dans le sens de leur compatibilité avec les structures de la société entière. Cela ne représente pas un problème particulier seulement pour la politique, mais s'en devient un pour tous, tous les sous-systèmes de la société. Les différences commencent à apparaître lorsqu'on examine leurs conditions de reproduction interne respectives. Seule la politique établit sa constitution sur le modèle d'une structure de pouvoir et du consensus destiné à l'élaboration des décisions collectives contraignantes et doit emprunter au phénomène du pouvoir l'autolimitation adéquate. L'autolimitation de la politique, les droits humains et la séparation des pouvoirs, comme exemple classique. Les autres systèmes sociaux doivent ajuster leur constitution propre et leur délimitation à leurs propres médias de communication, à savoir pour l'économie, aux opérations de paiement, pour la science, aux cognitions et pour les médias de masse, aux informations. Test numéro 2. Domaine constitutionnel. Peut-on identifier dans les régimes des différents domaines de la constitutionnalisation une collaboration comparable à celle qu'on observe dans l'organisation des constitutions étatiques entre les processus politiques organisés et la formation spontanée de la volonté du public, collaboration dont la réglementation est essentielle pour le constitutionnalisme démocratique? Le constitutionnalisme sociétal élève en critère d'une société démocratique l'existence d'une pluralité d'instances de réflexion, non seulement au sein de la politique, mais aussi à l'intérieur des institutions sociétales. À propos de cette collaboration, il est important d'observer que chaque système de fonction présente une différenciation interne entre un domaine professionnel organisé et un domaine spontané. Dans l'histoire constitutionnelle, les constitutions étatiques ont déjà aménagé au sein de leur organisation la différenciation interne adéquate à la politique grâce à des réglementations détaillées, le droit de vote et les droits politiques fondamentaux d'un côté, et les normes des compétences et les procédures du Parlement, du gouvernement et de l'administration de l'autre. Mais on trouve également parmi les autres systèmes de fonction des candidats à des constitutionnalisations de ce type, aussi bien dans le secteur organisé, c'est-à-dire entre les entreprises, les banques, les intermédiaires de l'Internet, les organisations de la santé, les organisations professionnelles et les universités, les secteurs professionnels, organisationnels, que dans le domaine spontané, c'est-à-dire parmi les secteurs publics liés à des fonctions spécifiques. Test numéro 3, processus constitutionnel. Les normes juridiques établissent-elles, elles, au sein des régimes, une relation suffisamment étroite avec le contexte social de leur nomic community, comparable à la relation que les normes du droit constitutionnel national établissent avec la nomic community de la politique. Cette relation à la nomic community est prise ici comme indice d'une double réflexivité du concept de constitution. En premier lieu, la constitutionnalisation est toujours l'autofondation du médium communicationnel d'un système social, la politique, l'économie, les médias, la santé. Au sein de tel processus d'autofondation, le droit joue un rôle certes indispensable, mais uniquement auxiliaire. Si un constitutionnalisme mondial veut développer un concept ambitieux de constitution, il doit rester conscient du fait que les constitutions sont d'abord des processus sociaux et ensuite seulement des processus juridiques. Alors, c'est la fameuse controverse entre Kelsen et Schmitt. Kelsen seulement le droit, Schmitt seulement la politique. Et ici, on essaie une synthèse entre les deux. Double réflexivité. Toutefois, la simple fondation d'une autonomie médiale n'est pas encore sa constitutionnalisation. On ne devrait parler de constitution au sens strict que lorsque la réflexivité d'un système social, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie ou d'autres secteurs, est structurellement couplée au droit. Toujours ce double caractère. Ou plus exactement, à la réflexivité du droit. Les constitutions n'apparaissent que lorsqu'émergent des phénomènes de double réflexivité, réflexivité du système social et réflexivité du droit. Test numéro 4, structure constitutionnelle. Les régimes établissent-ils les structures typiquement constitutionnelles qu'on connaît dans les contextes anciens, en particulier les hiérarchies des normes et leurs garanties institutionnelles? Aussi bien dans le domaine politique, dans le domaine économique ou dans d'autres domaines sociaux, la constitutionnalisation n'atteint son terme que lorsque apparaît un code constitutionnel autonome, un code constitutionnel autonome. Plus précisément, maintenant, une formulation un peu baroque, un métacode binaire hybride. Un métacode binaire hybride sur lequel sont orientés les processus internes des deux systèmes couplés. Le code constitutionnel est binaire en ceci qu'il oscille entre les valeurs constitutionnelles non constitutionnelles. Il fonctionne à un méta-niveau parce qu'il soumet à un examen supplémentaire des décisions auxquelles s'applique déjà le code binaire légal-illégal. Les juges sont toujours contrôlés par la Constitution, pour savoir si elles répondent aux exigences juridiques de la Constitution sociétale. On voit donc apparaître ici la hiérarchie typique pour toutes les constitutions, qu'elles soient politico-étatiques, sociétales ou constitutions d'organisation, entre le droit ordinaire et le droit constitutionnel, « the law of the laws ». Le code constitutionnel, alors constitutionnel et non constitutionnel, du domaine social en question, prime sur le code du droit légal et légal. L'astuce du métacodage repose toutefois seulement sur son hybridité, parce qu'il ne prime pas seulement sur le code juridique, mais également sur le code binaire du système concerné. Il interrompt en effet également la réflexion supplémentaire des opérations binairement codées de ces systèmes, réflexion qui conduirait à déterminer si ces opérations tiennent compte d'une responsabilité publique du système social. Alors, la formulation baroque, métacode binaire hybride. Ce n'est que lorsque configuration transnationale possède la totalité des traits mentionnés qu'on peut parler stricto sensu de l'apparition d'une constitution transnationale. Troisième tâche, dernière tâche, l'élaboration des conditions sociologiques pour les perspectives politiques et juridiques. J'ai encore 5 minutes, monsieur ?
Je n'ai pas le choix.
Ah, vous êtes le directeur. Non ? Alors, le droit constitutionnel doit faire écho aux analyses sociologiques des processus transnationaux de constitutionnalisation, mais il doit en même temps observer une distance suffisante vis-à-vis de cette discipline voisine. La sociologie constitutionnelle ne peut en aucun cas fixer des principes juridiques directeurs pour les régimes transnationaux, et encore moins des normes constitutionnelles particulières. La dogmatique constitutionnelle devrait, au contraire, établir une division interdisciplinaire du travail selon laquelle chaque discipline fournirait une contribution autonome depuis sa propre perspective. Et cela signifie que les analystes de la sociologie constitutionnelle étudient la logique d'action des configurations, dévoilent les structures propres aux processus transnationaux, et élabore des solutions structurelles alternatives. Le droit constitutionnel s'en trouve stimulé et développe à partir de ses propres modes de pensée des concepts, des normes et des principes originaux pour les constitutions transnationales qui peuvent fonctionner comme des solutions juridiques appropriées aux nouveaux problèmes de constitution et de limitation. Les diagnostics sociologiques sur la temporalité accélérée qui constate une contrainte de croissance aux conséquences destructives dans l'ensemble des systèmes fonctionnels mondiaux devraient en conclure que la première tâche du droit constitutionnel consiste à développer des normes constitutionnelles limitatives. C'est la tâche de notre temps. On observe à juste titre dans le domaine économique une contrainte immanente à produire toujours davantage, qui représente d'une part une condition de son autoreproduction et peut conduire d'autre part par des mécanismes de croissance à se retourner en tendance destructrice. Ce type de contrainte ne se rencontre toutefois pas seulement dans l'économie, comme pensent tous les critiques du capitalisme, mais également dans d'autres systèmes fonctionnels. La dynamique de croissance va au-delà du cercle de l'accélération que Hartmut Rosa a diagnostiqué dans les sociétés modernes. Il ne s'agit pas seulement d'une modification sociale déterminée des structures temporelles qui conduisent à une accélération des processus sociaux. Ce n'est là qu'une dimension partielle relative à la temporalité de la dynamique générale de croissance des systèmes fonctionnels. Il faut envisager également, au-delà de cette dimension, la dimension matérielle et sociale, des phénomènes sociaux de croissance. Cette dynamique s'exprime dans la dimension matérielle comme la contrainte à l'augmentation de la production symbolique dont il a été ici question, c'est-à-dire une tendance à augmenter des opérations de même ordre de telle sorte que démultiplient leurs structures. Ce n'est pas seulement un principe économique, mais se trouve toujours dans les différents domaines. Dans sa dimension sociale, elle aboutit à une épidémiologie. Épidémiologie, ça c'est médical. Hein? Épidémiologie sociale à l'imitation, à la dissémination et à la contagion, ainsi que font étudier les analyses consacrées au comportement moutonnier. Comportement moutonnier. Hein? des marchés financiers. Dans l'ensemble, il s'agit de prestations anticipées qui génèrent des attentes de prestations croissantes et qui contraignent donc, à leur tour, les prochaines avancent à une dynamique qui, si elle est nécessaire sur le moment, a tendance à dériver dans des excès qui causent des dommages sociaux. Nous arrivons à la fin. Nul ne sait à l'avance comment une telle constitutionnalisation capillaire peut réussir concrètement. Des pronostics ex ante sont en principe impossibles. Il n'y a pas, par conséquent, d'alternative à une constitutionnalisation expérimentale. Si une pression externe s'exerçait, l'autorégulation de la politique, celle du droit et des autres sous-systèmes produirait de telles irritations sur le système focal qu'en fin de compte, les différents programmes d'autorégulation agiraient ensemble dans la direction souhaitée. Or, on ne peut prévoir ces phénomènes, seulement en faire l'expérience. La direction souhaitée pour les constitutions sectorielles est, on l'a vu, celle qui limite les tendances endogènes à l'autodestruction et à la dégradation de l'environnement. La problématique constitutionnelle se caractérise par la tâche délicate de gérer une pluralité des programmes d'autorégulation issus à la fois d'un certain sous-système et de ses systèmes environnementaux. Merci beaucoup pour votre attention.